Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 126e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Tous les vendredis matins à 8h, on fait une petite sélection d'une demi-heure d'actu. Des actus tech, des actus gaming, des actus app, des actus culture. Et tout ça, je le fais avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Hello, on fait surtout des actus confinés.
Ouais, confinés. T'as vu, j'ai changé un peu l'intro pour le coup.
C'est beau, je suis hyper... Je regardais, si tu vois, j'étais inquiet. Je me dis, est-ce qu'il va partir dans un truc? Oui, nous sommes prisonniers, jour 40 milliards, enfin, tu vois, on se revoit en 2021. Voilà, on a plein de choses de prévues, mais ça va aller relativement vite quand même.
Ouais. Avant de commencer, je voulais juste signaler l'existence très vite d'un excellent podcast. Si vous comprenez l'anglais et que vous êtes un petit peu anxieux à la lecture des news sur le coronavirus tous les jours, il y a NPR, donc la chaîne publique américaine, qui fait très bon podcast, comme Invisibilia, qui fait un podcast quotidien qui s'appelle Coronavirus Update ou un truc dans le genre. Je vous linkerai le truc dans le billet qui accompagne ce podcast. Et donc voilà, c'est 10 minutes, c'est concis, c'est pas du tout anxiogène. Donc voilà, je voulais juste en parler avant qu'on attaque le reste du sommaire qui est quand même conséquent, l'air de rien.
Ouais, mais ça va aller, ça va aller.
Allez, on commence par le gaming avec Resident Evil 3, le reboot.
Je me suis fait insulter par Archeon, qui, parce que c'est un gros fan de la série. Ouais. Il aime les zombies et les gros monstres, hein, qui détruisent les villes. et du coup, parce que j'étais là, oui, on a discuté et je me suis fait reprendre directement sur la chronologie de Resident Evil, c'est mon petit côté noob, j'aime bien la série, mais je ne suis pas un ultra fan, donc j'allais dire des conneries dans ce podcast. Et heureusement, grâce à notre sudiste préféré, que vous pouvez retrouver dans notre podcast Les Clairvoyants, je devais éviter la plus grosse boulette qui visiblement a été faite par 2-3 personnes sur les internets multimédia. C'est que ce Resident Evil 3, qui est effectivement un reboot du jeu sorti sur PlayStation il y a 20 ans, les amis, si vous y avez joué et que vous en avez des souvenirs émus, effacez-les de votre mémoire, car ne le relancez pas en émulation, c'est pas si génial que ça. Ça a assez mal vieilli. Mais donc ce reboot, ce reboot en anglais, se passe pas du tout après Resident Evil 2. Car il y a une chronologie un peu zarbi dans cette série. C'est-à-dire que Resident Evil 1 se passe le 24 juillet 1998, le 2 le 29 septembre, mais le 3 se passe le 28 septembre, donc la journée précédente. D'accord. Et on va voir ce qu'il se passe dans la vie d'une certaine Jill Valentine, qui en fait était l'héroïne, enfin qu'on retrouvait dans, pas l'héroïne, mais un des persos du RE1. Et là, on a aussi, comme équipier et comme personnage qu'on va jouer à intervalles réguliers, Carlos et sa chevelure magnifique. Car nous retrouvons... Non, je déconne, mais quand vous allez le voir la première fois à l'écran, vous allez faire « Ah !» Ah, et ses cheveux ont une... Enfin, ils votent, quoi, tu vois. Ses cheveux ont le droit de vote, ils ont une vie à part, en fait. Quand tu bouges le perso, c'est assez chelou. Alors, ça rend bien, hein, parce que on a évidemment, encore une fois, le RE Engine qui fait un taf de taré, qui est vraiment vraiment super propre. Les premières séquences sont posent le débat, hein. C'est vraiment magnifique, les personnages sont ultra bien modélisés, Jill a jamais été aussi mignonne, tout va bien. Mais bon, tout ça, on le sait déjà si on a joué à Resident Evil 2, qui était déjà magnifique. Là, je pense qu'ils ont encore rebossé les effets de lumière, en tout cas ils ont encore plus le moteur dans les mains, donc ils savent encore mieux l'utiliser. C'est vraiment très très bien fichu. Du coup, on va redécouvrir l'histoire, parce que le gameplay et l'histoire ont été retravaillés pour cette refonte version 2020. Donc même si vous connaissez l'autre par cœur, normalement il y a de quoi faire. C'est quand même pas du tout une copie carbone de l'ancien, et heureusement, parce que encore une fois, hein, je le redis, mais le gameplay de la version originale, voilà quoi.
Dur.
Dur. Du coup, vous allez dérouler l'histoire avec une mise en bouche. Je veux pas vous spoiler, mais ça commence très fort tout de suite. Si vous connaissez un peu la série, vous savez qui va vous réveiller, hein, si vous lancez le jeu en début de soirée un petit peu fatigué par une journée de confinement, peut-être avec des enfants ultra actifs, je ne sais pas. Vous allez voir que il va vous mettre une petite claque. Il va, ah bon, bah là, ok, d'accord, je vais regarder. Il faut que je me reconcentre quand même un petit peu. Mais bon, c'est l'intro, c'est pour vous mettre un peu sur les rails. Après, ça se calme relativement vite. La bonne nouvelle, c'est que ce jeu, il n'est pas très compliqué. C'est-à-dire que c'est assez arcade. Il y a du jumpscare, il y a des... Voilà, c'est un Resident Evil. Hein. Mais on n'est quand même pas sur un truc ultra difficile. On n'est pas sur un truc avec deux cartouches pour 12 zombies. Il y a un moment, si vous voulez nettoyer un petit coin, on va dire, de la carte, parce que vous aimeriez explorer tranquillement, vous pouvez le faire, c'est possible. Il y a de quoi fabriquer des cartouches, il y a de quoi en récupérer un petit peu partout. Bon, c'est pas trop la tannée de ce côté-là. En revanche, ça se finit très vite. Alors, ça sera un avantage, un inconvénient, ça dépend de votre temps de jeu. Mais il est relativement cher pour un jeu qui se finit en, attention, 7 heures. Donc,
ça va encore. Ça va,
mais bon, il aurait mérité 10 balles de moins. On va dire que Capcom là-dessus est un petit peu
c'est
gourmand.
C'est Capcom aussi.
Voilà. Ouais, Capcom, c'est les gens qui te vendent les packs à Wattmill sur Street Fighter. Hein.
On aime bien les sous chez Capcom. Hein.
Il faut rentabiliser. Après, ça reste très bien fait, mais je préfère prévenir les gens pour qu'il n'y ait pas de frustration. Et il y a un mode multi. Alors, le mode multi, tout le monde se dit, une bonne nouvelle. Encore un mode multi asymétrique avec des bonnes idées. Donc, il y a des personnages qui doivent s'enfuir et il y a un joueur qui va jouer le maître du donjon, entre guillemets, qui va essayer de faire en sorte que tout le monde crève, car lui, il est là pour ça. En fait, tuer un employé dans Umbrella, la boîte qui est derrière tout le bordel de tout l'univers de Resident Evil, et tu dois tester des choses et faire en sorte qu'ils ne s'enfuient pas. Et donc, ils doivent trépasser assez rapidement. Ça serait mieux pour votre score, en tout cas. La problématique, c'est que, bon, comme tous les jeux asymétriques, on en parlait la semaine dernière avec un autre titre. Hein. Il y a un problème d'équilibrage en permanence et je ne suis pas persuadé que ça soit passionnant très longtemps. C'est rigolo avec une bande de potes, mais je doute que vous y jouiez le mois prochain. Tu vois, enfin, sauf si vous le découvrez le mois prochain. Mais même confiné, je pense qu'il y a largement d'autres jeux pour faire du multi ou du solo. Donc, je suis pas vraiment convaincu par ce qu'ils ont réussi à faire. Après, ça reste, voilà, ça fonctionne. Hein, y a pas de souci. J'y ai très peu jouer, donc je suis obligé de mettre des petites pincettes, mais je me réfère à tous les gens qui ont décortiqué le jeu encore plus que moi, car nous on avait deux versions en fait pour la review, on avait la version solo et une version multi qui s'installait séparément dans Steam, tout est dans le même jeu dans la version finale que vous pouvez acheter. En revanche, bon courage pour trouver des gens pour jouer, tu vois, tu n'as pas d'amis en test review, si tu tombes pas avec tes potes journalistes en même temps, c'est mort, mais c'est vraiment pas, c'est pas ouf quoi. Alors en plus attention, parce que vous verrez par exemple dans le test de Game Cult quand on parle de la durée de vie du jeu, il y a même des gens qui disent que quand tu vraiment fais le gameplay pur, quand tu comptes que ça, le jeu fait à peu près 5 heures, tu vois. Ouf. Donc c'est vraiment pas beaucoup et c'est ce qui ressort de toutes les reviews. Je vous en ai linké plein parce que je sais que vous avez le temps de lire en ce moment et de travailler votre anglais. Je vous ai linké The Verge, Numérama en français, Game Cult et CPC si vous êtes abonné, qui disent tous la même chose. C'est une bonne mouture, mais bon, c'est un petit peu trop rapide, on aurait bien aimé en avoir un petit peu plus, mais si vous n'avez pas fait le 2, c'est le moment de dépenser des sous, parce que le 2, lui, en revanche, est vraiment très très bien et beaucoup plus long. Voilà.
Merci, Kaf. On le reste dans le gaming et je voulais vous parler très très vite d'un Humble Bundle, parce que bon, il y a des promos partout, dans tous les domaines en ce moment, autour du confinement justement, il y a plein de gens qui font des offres. Si on voulait vous les lister, on devrait passer plusieurs épisodes intégraux pour le faire, donc là, je voulais juste souligner l'existence du Humble Bundle, donc qui, pour soutenir la lutte contre Covid-19, cette vilaine maladie, propose un gros bundle de jeux, d'e-books, le tout pour 28€. Alors, dans les jeux, je vais pas tous vous les citer, mais il y a vraiment des trucs pas mal. Il y a Into the Breach, Undertale, Hollow Knight, The Witness, Superhot, Darksiders 2, Jackbox Party Pack 2, il y a aussi quelques romans, il y a des comics, il y a des bouquins éducatifs, donc il y a un vrai chouette package, et l'intégralité des revenus seront reversés à des organisations qui sont en première ligne pour lutter contre la maladie, donc c'est plutôt un beau geste. Et pour 28 balles, vous avez, j'ai pas compté, mais je pense qu'il doit y avoir une trentaine de jeux, un truc comme ça.
Il y en a plus.
Voilà. Et c'est vraiment des trucs. Bon, moi, j'ai regardé. Malheureusement, j'en ai déjà plein.
Moi aussi,
au pire, vous l'achetez pour un ou deux titres et puis vous faites circuler les clés. Comme ça, vous faites profiter des gens qui n'ont pas de sous et leur permettre donc de découvrir tous ces titres.
D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on a un thread dédié à ça sur Geekzone. Tout à fait. Forum. Et que nous avons des gens qui avaient carrément tous les jeux qui l'ont acheté quand même et qui ont relancé notre fameux concours de dessin. il faut dessiner le jeu que vous voulez récupérer et ça donne des trucs assez violents car nous avons des artistes de la souris, je vous le dis. Et c'est drôle, rien que pour ça, c'est marrant.
Allez, on passe du côté des apps avec très rapidement une petite annonce du côté de nos amis de Slack qui ont vu qu'avec le confinement, les demandes en outils de télétravail ont grimpé en flèche. Alors, il y en a beaucoup qui servent de Teams, de Zoom. Zoom, il faut pas, on va en reparler tout à l'heure, hein, CAF.
C'est ça, c'est le sujet juste après.
Ou alors Slack. Et justement, Slack vient de rajouter de nombreuses intégrations à tous ses outils dans son application. Alors, c'est pas parfait. Donc, on peut par exemple lancer un call Microsoft Teams depuis Slack, mais on peut pas le faire dans l'app Slack, il faut lancer l'app de Microsoft, mais il y a de l'intégration Voice over IP, cela dit, dans l'application pour plein d'autres softs comme Zoom, on va en reparler, Cisco Jabber, RingCentral, Dialpad directement donc dans l'application, et puis toujours WebEx qu'on recommandera aussi tout à l'heure. Je vous linkerai un papier de The Verge qui résume tout ça, mais voilà, je voulais en parler très très vite parce qu'on aime bien les gens de Slack.
Oui, ils travaillent bien les petits gars.
Alors Zoom, pourquoi faut pas y aller?
Zoom, c'est un bordel les gars. Ouh là là, donc Zoom, c'est un outil de vidéoconférence dédié aux entreprises qui se retrouvent un peu dans la mouise car ils viennent d'avoir en fait un bon problème pour une startup, enfin qui est vraiment une startup, et ils explosent, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis à utiliser ce truc-là plutôt que la concurrence. Pourquoi eux, me demandez pas. Peut-être parce qu'ils ont été, ils ont un nom facile à retenir, ils étaient dans les premiers à annoncer des largesses sur leur tier gratuit pour pouvoir accueillir les nouveaux venus. Je ne sais pas, mais toujours est-il que du coup ils sont sous le microscope de plein de gens et qui ont découvert qu'il y avait plein de problèmes à différents niveaux, des problèmes de gestion de la vie privée, des problèmes intégraux au soft, c'est-à-dire que le logiciel est prévu pour vous espionner à différents niveaux. D'un côté, pour vos managers, savoir si vous êtes bien sur l'application quand vous êtes sur le conf call et pas en train de regarder une vidéo sur YouTube. on peut récupérer. C'est moche. Les managers ont accès à des outils qui permettent de checker qui fait quoi, etc. Ce qui ne fera pas plaisir à tout le monde et qui est contraire à plein de règles dans plein de boîtes, enfin bon bref, dans plein de pays. Donc c'est la merde pour eux. Des problématiques de bonnes vieilles failles à tous les niveaux, avec des grosses failles en particulier sur la version macOS aussi, qui est bien dégueulasse, qui est en plus fait pour te gruger en fait à l'installation. Si tu veux, il y a une espèce de bidouille qui te fait croire que c'est une fenêtre système et que ton call, enfin le truc que tu vas cliquer sur OK est normal, mais pas du tout en fait. C'est un truc que Zoom a rajouté pour pouvoir installer ses merdes partout et pour pouvoir avoir accès à tout le système pour pas se faire chier au niveau du développement. C'était une méthode que Dropbox avait fait à l'époque en fait pour bidouiller, mais à l'époque où macOS proposait pas ce dont avait besoin Dropbox justement pour s'intégrer correctement dans le système, ce qui n'est plus le cas maintenant. Plein de problématiques qui font que Zoom a déclaré aujourd'hui, donc hier pour vous si vous écoutez ce podcast vendredi, ils ont déclaré qu'ils allaient faire un feature freeze, donc ils arrêtent de rajouter plein de trucs qu'ils avaient prévu de rajouter dans l'application là maintenant tout de suite et pour 90 jours pour se concentrer sur toutes ces problématiques de sécurité, toutes ces problématiques de vie privée, parce qu'ils sont en train de se faire défoncer et ils viennent évidemment de se plaindre un procès aux États-Unis car aux US c'est comme ça que ça marche quand les gens sont pas contents. Donc du coup vous dites oui mais Zoom, moi je fais mes cours de yoga avec, comment je vais faire pour mon télétravail du yoga? Et en fait il y a plein d'alternatives. Donc WebEx, alors WebEx est fait par Cisco qui a racheté la boîte il y a des années de ça.
C'est pas super fiable non plus.
Alors Cisco, voilà ce que j'allais dire. Cisco, faire de Cisco le good guy dans des problèmes de gestion de la vie privée, c'est compliqué.
C'est chaud.
Parce qu'ils ont un track record sur les 30 dernières années, comment vous dire. Il y a des dossiers. Là tout de suite, en tout cas, il y a moins de failles et ça fonctionne. En termes de fonctionnalité pour les sociétés, WebEx positionne très très bien. Et en plus, la blague, c'est que il y a moins de limitations que dans Zoom. Entre autres, les réunions peuvent durer plus longtemps. Donc,
je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle, ça.
J'essaie, c'est pour ça que j'ai du mal à me... Mais il y a surtout un truc open source qui... il y a moins de fonctions, mais il y a l'essentiel pour pouvoir travailler qui s'appelle Jitsi Meet. Je vous ai linké tout ça dans un billet de Geekzone. Et puis, dans le forum, il y a une autre news qui nous vient de The Verge, qui est encore link, mais tout les options qu'il y a, il y en a plein pour faire de la vidéoconférence, et il y a plein de sociétés qui sont en train de se rendre compte, qui sont peut-être parties un peu vite du côté de Zoom, mais après, ça n'enlève rien aux qualités intrinsèques du produit, c'est que ils ont peut-être un petit peu été trop gourmands d'un côté, et puis pas très bons programmeurs de l'autre, je ne sais pas quelle taille fait l'équipe, hein, tu vois, mais ils ont eu un petit souci là-dessus. Ah, et j'ai oublié de préciser qu'évidemment, Zoom, non seulement vous vend le truc, mais ils se sont fait défoncer aussi, parce qu'ils font de la récupération de données personnelles pour les vendre à des publicitaires. Parce que pourquoi pas manger deux fois quand tu peux manger deux fois, tu vois? Pourquoi manger qu'une fois? Je veux dire, je comprends. Non, c'est vraiment, c'est pas l'outil à recommander actuellement. On en reparlera dans 3 mois et j'espère bien qu'on pourra sortir de chez nous dans 3 mois.
Et alors là, il va se passer un truc assez unique, ce qui prouve bien que le monde ne tourne pas rond en ce moment. Caféine va nous parler d'applications musicales.
Et oui, car il faut le savoir, j'ai une âme de musicien. Et oui, je suis un roi du bip bip. Tu vois Rose dans Friends?
C'est ça.
Voilà, c'est moi ça. C'est-à-dire que j'adore la musique, mais je ne sais pas en faire. Mais quand de temps en temps, me poser pour faire bip 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 avec des sons bien rigolos,
bah, ça me fait en ce moment, oui.
Très plaisir. Et en ce moment, voilà, on a quand même le temps. Et il y a plein de gens qui se sont fait la même réflexion. Je voulais vous dire que vous pouvez récupérer un truc qui s'appelle Synthmaster One et un autre truc qui s'appelle Mini Moog Model D. Mini Moog, une marque,
très bien, ouais.
Voilà, un petit peu mythique, hein, qui sont en fait des applications iOS, plutôt recommandées sur iPad pour avoir un peu de place, sur iPhone ça fonctionne tout de même, donc vous ne pouvez pas rater ça, mais évidemment le clavier sera tout petit pour faire mumuse. Et en fait ce sont deux applications pour faire, ce sont deux synthés en fait, que vous pouvez bidouiller pour faire des nappes, des sons les plus bizarres possibles. Alors Mini Moog, c'est un connu de chez connu, hein, le Model D, mais c'est une très très bonne émulation dans votre poche si c'est sur iPhone, ce qui est assez violent. Mais si vous faites de la musique beaucoup plus sérieusement que moi, le Synthmaster One en fait permet d'avoir de l'intégrer en fait dans votre workflow. Il est beaucoup plus souple que ce que propose Mini Moog avec le Model D, qui est là aussi pour vous faire redécouvrir la machine et vous laisser faire mumuse. Mais c'est pas la même vocation, on va dire professionnelle, même si on peut le faire, attention, hein, mais c'est pas la même vocation que le Synthmaster One. Et c'est des trucs qui valent 20 balles d'habitude. Alors déjà, c'est pas la ruine quand on fait de la musique et quand on sait combien on peut coûter les softs et les plugins et les machins et les bidules. Mais là, c'est gratuit parce que, confinement, parce que les mecs ont envie de faire plaisir. Il y a plein d'autres trucs que je vois passer. J'essaierai de vous en parler plus régulièrement, soit dans le podcast, soit sur le site. La blague, c'est qu'en fait, tous ces trucs-là sont, comme moi, je suis un Ross, hein, je les vois pas forcément, je vois pas forcément leur valeur ajoutée tout de suite. Mais il faut savoir que sur iOS en particulier, il y a énormément de produits du genre. Alors je suis désolé si vous êtes sous Android, mais le business se fait en tout cas sous iOS, parce que iOS en plus propose en termes de musique beaucoup plus de possibilités d'intégration pour faire des dos comme tu dis complets, et c'est pas le cas sous Android malheureusement. Donc du coup il y a énormément de choses qui sont dispo en ce moment. Si vous grattez et si vous avez des opportunités, si vous voyez des choses passer, n'hésitez pas à les partager sur le forum.
Et on reste dans l'écosystème Apple avec Crescendo.
Ouais, dont j'ai fait une news cette semaine. Alors vite fait, c'est un outil gratuit mais hyper pratique si vous aimez savoir ce qui se passe sur votre bécane, ou si encore plus prosaïquement vous êtes développeur et vous avez besoin de savoir pourquoi votre application déconne, ou s'il y a un truc qui ne marche pas comme vous voulez. C'est ce qu'on appelle un moniteur système, mais vraiment pas comme celui qui est intégré à Mac OS. C'est vraiment là où vous allez voir qui fait quoi, qui crée quel tel fichier, qui va aller écrire dans tel ou tel fichier. Vous pouvez vraiment choisir d'espionner vraiment les processus pour comprendre ce qui est en train de se passer et ce que fait telle ou telle application. C'est le genre d'outil qu'on va utiliser pour voir que par exemple Zoom fait des trucs qu'il a pas le droit de faire, tu vois. Je simplifie parce que les mecs ont des outils encore bien plus perfectionnés que celui-là, mais c'est pour vous donner, c'est pas juste un moniteur système comme vous pouvez avoir quand vous faites Ctrl Alt Sub sur votre Windows, etc. On est plus proche d'un process hacker 2 version optimisée, mais qui respecte en fait le système. C'est-à-dire que là, pourquoi cet outil est intéressant, c'est parce qu'en fait, il fait appel à un framework qui a été développé entre autres par Apple pour pouvoir accéder à tout ça de manière propre, sans aller hacker le système et foutre la merde. Donc c'est vraiment très bien fait. Il y a un billet de blog qui accompagne justement ce soft sous GitHub, qui permet de savoir pourquoi le mec l'a créé, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y avait avant, etc., etc. Donc voilà, c'est un petit peu de lecture pour les plus geeky d'entre vous, et je trouve l'outil très pratique, en tout cas quand moi je fais mes tests, pour voir si une nouvelle application fait des choses que j'ai pas envie qu'elle fasse.
Et puis Apple toujours, mais cette fois-ci côté gestion de bibliothèque musicale avec Meta.
Mais oui, pour les gens qui sont pas passés au streaming, qui sont pas passés du côté de la feignantise, comme moi. Non, je continue de numériser de temps en temps des CD, je cherchais un soft pour faire ça proprement, et Meta est réellement impressionnant. C'est ultra bien fichu, c'est le meilleur éditeur de tag actuellement, j'ai envie de dire toute plateforme confondue, mais bon, ils font un Mac, donc je suis désolé. On peut évidemment faire ça avec plein d'autres softs, même dans Directory Opus. plus. Tu vois, je peux le faire sur mon PC pour éditer les tags. Mais car ce soft peut tout faire, c'est une running gag, c'est un running gag sur Geekzone, ne cherchez pas. Mais Meta, donc, c'est fait par un développeur français et c'est la preuve qu'on peut encore faire des petits logiciels indépendants vraiment ultra chiadés avec, tu vois, un truc tout con, mais il va récupérer les pochettes en HD. Il te propose pas des pochettes toutes pourries comme plein d'autres éditeurs de tags. Il fait vraiment attention à aller choper des trucs propres et ça marche très très bien. Ça coûte 20 balles pour avoir la version complète. Il y a une version d'essai de 3 jours et j'ai fait le test la semaine dernière sur Geekzone qui est linké dans le billet qui accompagne ce podcast.
Et on termine cette section app avec des nouvelles du côté de Yobit qui file des licences.
Et oui, car le Covid, c'est aussi du marketing pour les gens qui sont bloqués, comme on le disait tout à l'heure. Donc eux, ils offrent des licences de 6 mois pour tout leur soft, mais attention, il y en a 5 et vous pouvez n'en choisir que 2. Donc il va bien falloir choisir, mais en fait, quand vous regardez la liste, vous verrez que ça va assez vite. Pour moi, ce qui est très intéressant chez eux à tester, c'est leur uninstaller qui est assez puissant, mais qui globalement est surtout beaucoup plus intéressant que le reste de la gamme. Genre, ils ont un truc pour updater vos drivers tout seul. Je ne vois pas qui a besoin de ça en 2020 parce que on a plus beaucoup de drivers finalement dans nos machines et puis Windows va vous trouver un truc assez propre, rajouter vos drivers de carte mère, votre driver de carte graphique et normalement vous avez terminé.
Ouais, et puis on dit toujours que côté driver tant que ça marche, faut pas y toucher quoi.
Voilà, et puis globalement, c'est des softs qui rajoutent une surcouche pas forcément hyper intéressante. Ils ont un soft anti-malware mais qui est fait en accord avec Bitdefender, donc qu'est-ce qu'ils rajoutent à part une interface, je ne sais pas. Donc ça c'est des trucs que je n'ose pas recommander car je les ai pas testés. Mais j'avais déjà testé leur installeur, donc du coup, celui-là, je peux en parler, il fonctionne pas trop mal. Je rappelle quand même qu'il existe un truc complètement gratuit et assez efficace, ça s'appelle Geek & Installer, qui peut même s'installer en version portable. Je vais vous linker dans le billet qui accompagne le podcast aussi. Et toi, tu utilises un autre produit dont j'ai oublié le nom, côté...
Revo Uninstaller, voilà. En version pro.
Voilà, donc Revo, c'est les trois meilleurs, il y en a plein, il y en a 10-15 sur le marché. Les trois meilleurs, généralement, c'est celui d'Yobit, le Geek & Installer, avec sa version pro qui utilise le même moteur qui s'appelle Uninstall Tool qui est un des meilleurs aussi du marché, donc c'est vraiment ceux-là qu'il faut suivre. Et si vous vous demandez à quoi ça sert vu que Windows intègre ce genre de fonctionnalité, on peut évidemment enlever un logiciel directement via la fonction de Windows, c'est que comme sur Mac, hein, quand vous mettez un truc dans la poubelle, ces Uninstallers permettent de virer toutes les merdes que ne vire pas Windows automatiquement, les clés dans la base de registre, les dossiers, les fichiers créés un petit peu partout. Ils virent généralement que la base du soft quand il s'est installé. S'il y a des updates, etc., par exemple, il va pas les enlever. Donc, il y a des fichiers résiduels, comme on dit poliment, qui se baladent un peu partout. Et ces trucs empêchent justement d'avoir une installation de Windows qui se pourrit gentiment toute seule. Et d'ailleurs, il y en a certains, dont Yobit Uninstaller, qui ont des fonctionnalités, qui sont en fait des fonctionnalités qui espionne l'installation du logiciel pour ne rien rater, en fait. Pour ne pas faire une uninstall a posteriori, mais ils savent exactement ce qui a été installé à un moment, au moment où l'application est arrivée sur votre machine, ce qui est assez efficace.
Allez, on passe du côté de la culture. Je voulais vous faire deux recommandations très vite. D'abord, côté télé, avec l'arrivée de la saison 3 d'Ozark. Tu regardes Ozark ou pas du tout?
Pas du tout, c'est quoi?
Alors, Ozark, donc la saison 3 est sortie le 27 mars dernier sur Netflix. On retrouve donc la famille Bird, toujours plongée dans des magouilles illégales. En gros, c'est, si tu veux, l'histoire, le pitch de départ, c'est l'histoire de Marty Bird qui blanchit de l'argent en fait pour un cartel de drogue. Puis un jour, ça se passe mal et il est obligé de fuir avec sa famille et d'aller se relocaliser quelque part. Hein, sauf qu'il continue à blanchir de l'argent parce qu'il doit toujours de la thune au drug lord. Et donc, de saison en saison, ça se passe pas forcément toujours très très bien. J'en dis pas plus sur cette saison 3 parce que pour le moment, j'ai vu qu'un épisode et puis je voudrais pas vous spoiler le reste. Mais a priori, d'après tout ce que j'ai lu côté critique, ça serait la meilleure saison. Et c'est vrai que jusqu'ici c'était pas mal, mais c'était quand même assez inégal parfois, avec des épisodes un petit peu en dessous. Et là apparemment la saison 3 fait vraiment très très fort, donc je suis assez impatient de la finir et je voulais vous en parler très vite. Il y a 10 épisodes, ils sont tous disponibles sur Netflix. L'empire du binge watching, donc on peut tout regarder d'un coup, ce qui est en ce moment assez pratique. Et puis je voulais vous faire une petite recommandation musique, avec la sortie d'un album hippie, je sais pas trop comment le qualifier, qui s'appelle Jazz is Dead 001. C'est un album de Ali Shahid Muhammad, un ancien membre de A Tribe Called Quest, et Adrian Young. Et le duo avait déjà collaboré en fait sur la bande son notamment de Luke Cage, qui était vraiment très très bien.
Oh oui.
Ils font un album jazz ici, où ils sont entourés pour le coup de vétérans de la scène, comme le joueur de vibraphone Roy Ayers ou le saxophoniste Gary Bartz. Et c'est vraiment la bande-son parfaite pour bosser en ce moment en confinement. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait, c'est la plage d'ouverture, elle s'appelle « Hey Lover ». Thank you. A-Lover, donc tiré de cet album hippie Jazz is Dead 001, que je vous link donc dans le billet qui accompagne ce podcast. Et on passe du côté de la tech, mon cher Caf.
Ça va aller très vite. C'était juste pour vous signaler qu'il y a toute une flopée de machines qui sont en train d'être testées à base de Ryzen mobile, et particulièrement le haut de gamme, le Ryzen 9 4900HS, qui met une grosse claque dans la bouche de monsieur Intel. Qui n'est pas très content. Hein. Du coup, je vous rappelle que les Ryzen de desktop sont déjà en train de tailler des croupières à Intel de tous les côtés. Donc, ils sont vraiment...
Mais c'est pas la fête pour Intel en ce moment.
Ouais. Et puis surtout, le marché du portable, c'était vraiment leur chasse gardée. Le dernier truc qu'AMD n'arrivait pas vraiment à attaquer. Parce que là, AMD, maintenant, ils sont installés sur les stations de travail, sur les serveurs. Ils ont des gammes, en fait, pour tous ces trucs-là, avec des processeurs extrêmement puissants et extrêmement bien pricés, comme on dit dans les milieux autorisés. Donc, avec des tarifs généralement, mais alors calqués pour bien faire chier Intel. Et là, du coup, sur ces premiers portables, on se disait, oui, mais s'ils sont faits à la va-vite comme avant avec les processeurs AMD, ça va être encore de la merde. C'est-à-dire que la problématique sur les portables, c'est qu'il faut que la marque qui choisit le CPU soit un petit peu investi aussi pour faire un design qui soit adapté avec une évacuation de la chaleur correcte, pour que le processeur puisse s'exprimer pleinement, etc., etc. Tu sais, pas comme un desktop où tu prends une carte mère, tu claques le CPU dedans et roule, tu vois. Donc, il y a un peu plus de boulot autour de ça. Et généralement, tu as des mecs qui sont habitués à bosser avec les gammes d'Intel, qui préparent des mois à l'avance les nouvelles configurations, etc., etc. Mais là, ça y est, on a vraiment une flopée de portables qui vont débarquer entre maintenant et juin. Enfin bon, en ce moment, les dates sont un petit peu fluctuantes dans tous les domaines, donc on verra ce qu'il en est exactement. Mais là, ça a l'air d'être annoncé. Les derniers modèles que j'ai vus sont censés être dispo mi-juin. Et les perfs sont assez impressionnantes. Il y a eu une excellente vidéo de Linus Tech qui se moque encore une fois justement de sa surprise devant les résultats d'AMD, qui avait fait exactement le même genre de vidéo quand les Ryzen 9 étaient sortis sur desktop. Et bon, Intel évidemment ne va pas laisser sa part du gâteau comme ça. Ils sont en train de répliquer. Ils ont annoncé l'arrivée de CPU qui s'appellent les Comet Lake H, qui vont monter jusqu'à 5,3 GHz. Donc c'est beaucoup plus que la concurrence. Ils ont une maîtrise là-dessus, alors que les processeurs sont gravés pas aussi finement que chez AMD. Et un Core i9 qui va avoir 8 cores pour mettre dans vos portables et les transformer en machines à raclette. Donc, on verra ce que ça donne au niveau des tests, mais évidemment, ils vont pas se laisser faire comme ça. En revanche, techniquement, on sait qu'ils sont à la rue. Ils ne maîtrisent pas, en fait, la finesse de gravure que maîtrise AMD avec ses partenaires. Donc, du coup, là, les tests qui sont faits sur, que ça soit du jeu, donc du single thread, ou que ça soit du multithread, AMD est respectable partout, ou met une grosse claque à Intel. C'est-à-dire qu'en single thread, ils sont vraiment à un micro-poil de Intel qui garde un lead, mais insignifiant. Donc, on peut plus dire qu'on va choisir ça, parce que, par exemple, je veux du jeu, donc je veux garder 3 FPS en plus. Ça n'a pas de sens, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que techniquement, oui, ils sont encore devant, mais on s'en fout, en fait. Et en multithreadé, c'est-à-dire sur les applications qui vont exploiter toute la puissance de tous les cœurs, de tous les cœurs de votre CPU, ça va être victoire AMD, les doigts dans le pif. Donc c'est assez impressionnant. Je vous link cette petite liste chez Ars Technica ou chez Anantech, je verrai ce que je choisis. Et puis une petite news qui annonce l'arrivée des Comet Lake H, pour être gentil avec Intel, hein. On va pas tout de suite en plus ne pas donner les informations à propos de leur prochain produit, mais on espère qu'ils vont se réveiller, parce que bon, c'est dommage si AMD roule sur tout le monde. Vous savez ce qui se passe, au bout de plusieurs années, les prix remontent de l'autre côté.
Bah oui, c'est ça, ouais.
C'est pas drôle. Donc, mais là, pour l'instant, c'est le début, donc profitons-en et allez voir ces bécanes-là. Surtout si vous voulez un portable de gamer, il va y avoir à mon avis des configurations très intéressantes dans les semaines à venir, surtout que Nvidia vient d'annoncer sa nouvelle gamme aussi de puces mobiles, donc il va y avoir des combos très intéressants à faire. Et puis, en fin d'année, il y aura les nouvelles puces graphiques de chez AMD aussi, qui risquent de ne pas faire rire Nvidia pour le coup. Donc on va suivre ça avec attention.
Allez, on termine ce podcast avec un rant.
Ah non, est-ce qu'on garderait pas pour la semaine prochaine? Est-ce qu'on les teaserait pas pour la semaine prochaine? J'avais un petit rant, qu'est-ce que t'en penses? Combien de temps on a? 30 minutes? Allez, je vous le donne ou pas?
Vas-y.
Ah là là, non, parce qu'en fait, j'ai découvert des applications. On a eu cette conversation en plus sur Geekzone cette semaine, encore une fois, sur notre Discord et notre forum, sur la nullité des applications de mail sous Windows, par exemple. Et je me suis fait une réflexion qui m'énerve, donc jingle.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis pas content? Parce que je découvre des applications de mail qui sont a priori hyper sexy, mais alors je comprends pas trop leur vision à long terme, si tu veux, car ce sont des applications qui sont entièrement dédiées à Gmail.
Super.
Et ça, c'est un truc qui me rend ouf, parce que quel est l'intérêt? Je veux dire, déjà, on a un protocole qui s'appelle l'IMAP, on a tout ce qu'il faut pour faire des clients mail qui fonctionnent partout, et les mecs font un truc spécial Gmail, et en plus, te vendent ça avec un petit design hipster minimaliste, genre, tu vas voir, ça va être zéro inbox, limite, on écrit les mails pour toi, et on te vend ça entre 15 et 30 dollars par mois.
Ok.
Donc 15 et 30, tu vois, 30 dollars par mois pour un client mail, j'ai beau aimer payer mes logiciels et être le premier à dire qu'il faut soutenir les développeurs indépendants, ou pas indépendants d'ailleurs, mais parce que si on veut du soft de qualité et pas des trucs pleins de pubs pour que bah justement les mecs puissent rentabiliser leur production, il y a un moment il faut mettre la main au portefeuille. Mais là je veux parler de Tempo et de Superhuman. Donc Tempo et Superhuman, c'est deux produits qui visent à peu près la même clientèle, on va pas se mentir, hein, et qui sont réellement, mais ultra chers, mais réellement frustrants, c'est-à-dire que tu n'as pas d'alternative finalement si t'es pas chez Gmail. Bah si tu dis hey, j'ai envie d'utiliser ce truc là avec mon Fastmail, tu peux pas. Donc ça m'agace réellement. Alors Superhuman, en plus, je vais être honnête avec vous, c'est un produit qu'on ne peut pas acheter encore. On est sur liste d'attente uniquement si tu veux le tester. Donc évidemment, il y a plein de journalistes de la Silicon Valley qui l'ont testé, il y en a plein qui vont vous aller trouver des billets sur Medium qui vont vous expliquer à quel point c'est extraordinaire, mais vous allez aussi trouver des billets, j'en ai vu un très très intéressant sur TechCrunch qui explique que bah je suis resté 6 mois, puis après je me suis rappelé mais pourquoi je paye plus cher que Netflix et machin et bidule combiné tous les mois pour ce truc là qui finalement change pas ma vie, et que en plus les préceptes, les trucs que met en avant Superhuman, tu peux les faire avec l'appli par défaut de ton Mac, hein. Tu avec Mail App de chez Apple, ça tu peux le faire. Ça sera pas exactement pareil, mais tu peux les mettre en œuvre. Et puis bah du coup, je voulais profiter de l'occasion pour rappeler l'existence de Spark, qui est une des meilleures applications du marché.
Alors qui malheureusement bientôt sur Windows en plus.
J'espère, ils font miroiter le truc depuis 1000 ans, mais pour leur business model, c'est impossible qu'elle n'arrive pas sous Windows, puisque eux, comment ils gagnent de l'argent? Ils gagnent de l'argent avec une édition Team où en fait on va faire du multi-document, mais autour des emails. Donc avec du partage d'infos, de l'écriture d'emails à plusieurs, etc. Et c'est pour ça que le reste de l'application est gratos. Il y a pas de pub dedans, ça fonctionne très bien. Même l'application Android est maintenant correcte. Ils ont eu du mal au départ, les premières versions étaient pas ouf. Mais là, je l'utilise sur un Samsung S10 Plus, ça marche très bien. Et évidemment, la version iOS, iPad et compagnie fonctionne très bien. Et surtout, donc, ça gère très très bien quand vous avez plusieurs comptes mail avec des provenances complètement diverses. Ça fonctionne parfaitement bien. Alors que les autres, sont très chers pour un gain que je trouve, mais alors vraiment, pour moi, c'est la hipsterisation du client email, tu vois. C'est-à-dire que si tu mets pas d'huile sur tes moustaches, je crois que t'es pas capable d'apprécier ce genre de logiciel. Ils sont très jolis, tu vois, il y a un design de taré, c'est vraiment super bien fichu, mais je trouve ça très cher. Et puis Gmail Only, à une époque où on est en train d'essayer de trouver des solutions pour bosser avec d'autres produits que les produits Google.
Bah ouais, c'est clair, ouais.
Bon, bah les gars, grosse vision d'avenir. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais m'énerver là-dessus. Et Superhuman, pourquoi je disais que j'avais pas testé? Parce que c'est impossible de trouver des infos concrètes sur leur site, sur plein de choses. En outre, justement, avec quoi tu peux l'utiliser derrière, c'est vraiment pas clair. Alors j'ai regardé plein de trucs, j'ai lu plein de trucs, et les infos sont quand même un peu disparates. Et en plus, apparemment, il y a une problématique autour de la gestion de la vie privée. Ils mettent des tags, des petits pixels cachés, tu sais, dans les emails pour voir qui a lu quoi, comment, etc. Ça va, comme ils veulent te faciliter la vie, il y a aussi une interaction avec les adresses email des gens qui t'envoient des mails pour pouvoir leur avoir des petites fiches avec leur lien Twitter, etc. Donc forcément, en termes de gestion de la vie privée, il y a aussi tout un débat entre les fonctions avancées du produit et ce qu'on aimerait ne pas partager finalement.
Ouais.
Donc voilà, c'est un peu compliqué. Puis 30 balles par mois pour un client mail, j'espère que vous en faites beaucoup, beaucoup, beaucoup des emails.
Et c'est la fin de ce 126e épisode de Torréfaction. On vous rappelle l'existence du Patreon, patreon.com/geekzonefr. Si vous voulez soutenir la production des podcasts et l'écriture de papier sur le site, eh bien, n'hésitez pas à passer, à laisser 1 euro, 2 euros, 5 euros, ce que vous pouvez. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. Et puis, on va retourner à notre confinement.
Oui, moi, je vais confiner. Alors, on va peut-être confiner un peu plus en streaming. On avait dit qu'on en ferait, là. J'ai vu que t'avais fait quelques trucs, hein.
Ouais.
On va continuer mollement. Et puis, surtout, je me disais, pour le streaming, il faut qu'on en parle, il faut qu'on débroussaille tout ça, mais avec nos Patreons justement, qui sont ultra présents, et puis d'ailleurs je rajoute à Patreon les gens qui sont toujours présents sur PayPal et qui nous font des dons tous les mois, même si vous n'êtes pas nombreux, mais ça, on préfère que vous soyez sous Patreon, que vous êtes tous au même endroit, tu vois, on peut pas vous perdre si jamais on fait des petites OP. Et à quoi je pensais par exemple à faire des sessions de questions-réponses uniquement pour les patrons avec lesquels on pourrait interagir en stream par exemple.
Tout à fait, ouais.
Des choses comme ça, donc si ça vous intéresse, venez commenter sur le forum et venez nous dire de quoi vous avez envie pendant qu'on est coincé chez nous. Profitons-en, puisque là on pourra pas dire qu'on était en rendez-vous. Enfin si, on pourrait être en conférence sur Zoom pendant qu'on se fait hacker sa machine. Oh, ça va, je plaisante.
Allez, à la semaine prochaine, ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.